Alors, les auteurs de l'anthologie Vampire à contrepoids et moi-même, nous tenons à adresser nos meilleurs voeux de rétablissement au maire de Sèvres, sans qui cette anthologie n'existerait pas et qui fait partie, le maire de Sèvres, des auteurs, puisqu'il s'est, il a écrit une préface pour l'anthologie et pour rendre hommage au festival. Voilà.
Merci. Alors, est-ce que ça marche?
Non.
Non, pas encore lancé.
Taper sur le.
Non, non, je
oui, ça y est, ça fait pof pof.
Oui, mais c'est bien.
C'est bon, merci. Bien, merci. Donc, effectivement, le maire, un des auteurs, il y en a également. Il y en a 13 en tout avec le maire. Voilà le dernier qui va être sur la scène. Donc nous manquions de place forcément pour mettre tous les auteurs de l'anthologie. Un certain nombre d'entre eux sont également dans la salle et ils se feront un plaisir d'intervenir au fur et à mesure s'ils le souhaitent, évidemment. Donc je ne vais pas présenter tous les auteurs au début, ce serait un petit peu fastidieux. Je vais les présenter au fur et à mesure que je vais les interroger et les présenter rapidement car, comme vous ne l'ignorez pas, on ne présente plus nos auteurs. Une des raisons pour lesquelles ils ont été d'ailleurs sollicités, c'est que ce sont des habitués du festival que vous avez donc eu l'occasion de croiser par ailleurs. Et pour certains, ce sont des habitués très anciens de la science-fiction. Alors, ils ont été ici pris à contre-poil, enfin, si j'ose dire, par Jeanne Adebatz, qui donc a été chargée par Jean-Luc Rivera, que nous remercions, que nous verrons sans doute tout à l'heure, elle a été chargée par Jean-Luc Rivera de composer pour les 10 ans de ce festival convivial et toujours plus rayonnant. Il déborde maintenant de tous les côtés de la salle qu'il accueille. Eh bien, elle a été chargée donc de composer une anthologie et le sujet qui lui est venu était tourné autour des vampires. Et donc je disais que les auteurs que nous allons entendre ont été pris un petit peu à contre-courant, je dirais plutôt, puisque pour l'essentiel, ce sont des auteurs de science-fiction, même si ce n'est pas la totalité de leur, de ce que nous avons comme auteur ici. C'est un sujet, donc le sujet des vampires, un sujet qui, au départ, n'a été abordé par aucun d'entre eux. Donc le défi initial, c'était parler de vampires, alors que ce n'est pas leur centre d'intérêt. Et chacun, à partir de ce moment, était libre de faire ce qu'il souhaitait. Alors, ma première question va s'adresser à Philippe Curval, ainsi que indirectement à Christian Léaurier, et Olivier Paquet, qui sont également présents dans la salle. C'est-à-dire, j'aimerais savoir, donc Philippe Curval, qui est un auteur de science-fiction, un des grands anciens de notre... tout à fait, hein, on le dira jamais assez. Donc, un auteur qui a fait des contributions remarquables à la science-fiction en tant que critique et, bien sûr, en tant que romancier nouvelliste. Ici, j'aimerais savoir, en fait... comment il se fait? Quel a été le processus de création qui t'a mené à faire du vampire ici un élément de satire sociale?
Ben, c'est-à-dire que dès le départ, Jeanne s'est attaquée à moi parce qu'elle sait que j'ai horreur des histoires de vampires, bien qu'on ne puisse pas dire que les vampires soient une de la science-fiction, puisque je suis une légende de Matheson, quand même un des grands livres de départ. Où la science-fiction est mélangée avec les vampires. Enfin, c'est un sujet qui ne m'intéressait pas. Alors, j'ai procédé comme je fais très souvent, pas toujours, c'est-à-dire que j'ai utilisé les procédés de Raymond Roussel, et donc j'ai pris le mot « vampire » et je l'ai détaché, et au début, j'ai mis « vent », le vent, et « pire ». Donc, à partir de là, je me suis dit « qu'est-ce que je pourrais faire à partir de là ?» et réfléchir sur le sujet. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que le vent? Et c'est à partir de là que j'ai développé cette histoire. Et cette histoire m'est venue un peu parce que j'ai lu, il y a très longtemps, une époque où justement il paraissait pas mal de romans autour des vampires dans les années 20, un roman dans lequel on parlait à la fois des vampires et des eupires. Alors les eupires, c'était une invention de l'auteur, Et ces eupires étaient les personnages qui, justement, étaient les vampires d'argent. Et donc, à partir de ces deux idées, pire que le vent et les vampires d'argent, je suis arrivé à développer une nouvelle qui, justement, porte sur le problème que pose actuellement le pillage financier globalisé, mondialisé. Et j'ai voulu, donc, utiliser cette histoire de vampires pour en faire une sorte de satire du monde actuel en train de se faire plumer par des banquiers.
Voilà. Donc, Christian Léaurier.
Oui, ouais, je crois que la démarche est à peu près identique. C'est-à-dire que moi, ce que je sais faire, c'est de la science-fiction. La science-fiction, pour moi, par définition, c'est une critique sociale. Et donc, je me suis attaqué aux vampires de notre époque.
Et en l'occurrence ?
En l'occurrence, les circuits commerciaux l'utilisation également de l'imaginaire pour faire rentrer les gens dans les circuits commerciaux.
Alors, moi, en fait, je suis parti aussi de ce qu'est un vampire. Et traditionnellement, le vampire, il se nourrit depuis Bram Stoker du sang, le sang étant vecteur de virus ou de tout ce genre de choses. Et on se dit, quel est le vecteur le plus important de notre vie moderne ? Ben, j'ai cherché, j'ai trouvé les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et de se dire que finalement, un vampire peut se nourrir de ce qui est notre puissance vitale, c'est nos amis, et donc de vampiriser nos amis, et donc une intelligence artificielle qui se nourrit de nos amis pour exister elle-même. Donc de partir justement de ça.
Donc des vampires finalement inscrits totalement dans la société contemporaine et non plus des individus qui se cachent et qui sont finalement... C'est aussi des individus qui, dans vos nouvelles, se mettent à vivre à la lumière. Alors pour certains, c'est pas forcément une bonne idée. La révélation reste un moment difficile pour les vampires. Mais en tout cas, pour Philippe Curol, par exemple, c'est visiblement, ils le vivent très bien. Je vous laisse découvrir la fin de la nouvelle de ce point de vue-là. Alors, le vampire comme figure, motif qui aspire non seulement le sang, mais également qui se nourrit de ses victimes, qui se nourrit en quelque sorte, de leurs émotions, de leur vécu, de ce qu'ils sont. C'est aussi un des motifs importants du vampire, ici repris et manipulé par certains de nos auteurs, qui ici réfléchissent. Ont mis en scène des situations d'amour, de relations amoureuses un petit peu paradoxales. Et je me tourne ici vers Marianne Lecomte pour lui demander justement ce que l'amour, et Christian Villas pourra intervenir effectivement à ce sujet également, pour lui demander un petit peu ce que elle a retenu et ce qu'elle a au contraire remodelé en ce qui concerne les relations amoureuses avec des vampires.
Alors pour moi, il est évident que vampire va avec sexualité. Parce que tout dans le mythe du vampire, il y a d'abord la quête de la proie, ensuite tout ramène à une sexualité même humaine, avec la morsure, avec le sang, avec la peur, avec la soumission, avec des rapports d'esclave-maître, avec la jouissance que les deux vont avoir. Donc il était évident pour moi, une nouvelle sur les vampires, c'était une nouvelle d'abord sur une vampire, la femme fatale, qui drague. Et comment draguer, il y a un autre objet qui pour moi évoque la sexualité, la motocyclette de Mandiargues, la chanson de Gainsbourg sur les Harley Davidson. Et donc il était évident pour moi, une vampire allait draguer à moto la nuit dans les endroits un peu glauques. Donc tout est parti de là.
Oui, moi je suis parti sur le même principe que Marianne, c'est-à-dire que il y a un lien étroit entre vampire et érotisme. Et bon, j'ai essayé de trafiquer ça à ma manière en mettant des choses non conventionnelles, on va dire, parce que les vampires, la plupart de Philippe, ils sont les miens, sont plutôt anarcho-communistes. Ils essaient de créer une société sans classe. C'est aussi un enjeu social dans la nouvelle.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un jeu aussi dans ces nouvelles entre la tentation de sympathiser avec les vampires ou au contraire de les tenir à distance et d'en faire des créatures qui restent inquiétantes. C'est-à-dire que les deux courants sont représentés et chaque auteur, de ce point de vue-là, a fait des choix spécifiques. Et dans la manière justement de représenter les vampires, donc éventuellement comme des individus qui créent une nouvelle société ou des individus qui portent des causes politiques, eh bien, certains de nos auteurs ont croisé le vampire. Alors, ils ne sont pas absolument les premiers. On pourrait faire tout un historique du rapport entre le vampire et l'espace. Mais ils ont croisé donc le vampire avec l'idée de la colonisation spatiale, du space opéra, mais à leur manière et donc d'une façon... notamment pour Hugo Bellagamba et Olivier Lichtenstein, d'une façon qui fait du vampire non pas une figure absolument inquiétante, mais au contraire, finalement, la figure de l'homme, disons, de l'homme soumis, de l'homme inquiété, de l'homme éventuellement révolté.
Je commence ?
Oui, alors moi j'ai abordé ça du point de vue donc plutôt politique, enfin plutôt histoire politique, avec un vampire à contre-emploi. Je remercie Jeanne pour ce projet parce que c'était quand même un casse-tête que de parler du vampire déjà et alors à contre-emploi. C'était un vrai défi, c'est la preuve encore une fois que les histoires naissent souvent de contraintes lorsqu'elles sont bien calculées. C'était le cas, donc mille fois merci parce que j'aurais jamais pensé à écrire ça. Oui, d'un vampire, en fait, qui crée une société, une contre-société, une société alternative. Moi, j'ai pris le pli de faire un vampire exploité par l'homme, exploité pour ses qualités, pour ses capacités, dans le cadre de la colonisation spatiale. Et tout est en train de s'effondrer.
tout va bien.
Et donc, en fait, c'est un petit clin d'œil à Outland, si vous avez vu le film de Peter Yams. Voilà. C'est-à-dire un vampire qui est l'ouvrier de base d'une exploitation minière sur Mercure, qui en plus est la planète la plus proche du Soleil, donc c'était assez sympa d'aller placer un vampire là-bas, justement, qui craigne le Soleil, et voir comment ces vampires maltraités, exploités, martyrisés, cette classe ouvrière vampirique, en arrive petit à petit à créer un contre-modèle social, voire à forger une révolution. Voilà, c'est ça ma manière de voir les choses.
On a eu à peu près la même optique. On n'a pas commencé à coloniser. Je me suis dit, on me donne un vampire, à quoi il peut me servir dans le domaine de la conquête spatiale, juste quitter le système solaire avec un vampire. Alors, comme je travaille dans le nucléaire, les milieux des radiations, etc., c'est toujours un sujet intéressant. Donc, j'ai essayé de trouver un usage pratique au vampire. Donc, j'ai viré tout ce qui est mythe. Désolé pour les autres, mais alors là, les mythes, je leur ai mis. Et j'ai vraiment traité le sujet scientifiquement, à quoi peut servir le vampire. Bien sûr, le vampire, il a un cerveau, et c'est là que ça se gâte, et qu'il ne va pas forcément être d'accord sur la façon dont on va se servir de lui. Et c'est un petit malin, voilà. Donc, il y a pas plus des prétentions d'ingénierie, de reverse engineering, que de social.
C'est un petit malin comme toi. Et toi, Simon ? Vampire
spatial. Oui, en fait, et je ne suis même pas non plus le dernier des auteurs à avoir fait ça, parce qu'on part avec Timothée tout de suite après. Mais effectivement, moi, ma logique, lorsque j'ai eu cette contrainte-là, ça a été de me demander finalement que faire d'un vampire qui ne correspond pas au vampirisme selon moi. Et ma première idée a été de présenter un vampire héroïque. Mais pour en faire un héros, il a fallu lui trouver quelque chose de pire. Et comme en même temps, je voulais faire quelque chose de parodique, mais je pense avoir échoué dans la parodie.
Totalement.
Voilà, et ça sera une question plus tard, ça sera d'ailleurs un bon enchaînement pour la question suivante, qui est peut-on prendre les vampires au sérieux ? Eh bien, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre les miens au sérieux, tout en mettant en scène une invasion d'extraterrestres vampires de l'espace. Bon. Voilà. Donc, mais justement. Peut-on prendre le vampire au sérieux, plus exactement, peut-on faire quelque chose qui soit entre sérieux et parodie? Et de ce point de vue-là, un des textes les plus surprenants est peut-être le texte de Timothée Rey, qui est également poète, je l'ai découvert dans l'anthologie, et qui le prouve en écrivant sa nouvelle en alexandrin. Et en fait, ma question ne vise pas la poésie et les vampires, mais plus largement, finalement, effectivement, peut-on prendre les vampires au sérieux lorsque on vient d'une logique qui est une logique, disons, plutôt de science-fiction
peut-on les prendre au sérieux? Alors, après, fais ce que tu veux de la question, mais ça me permettra également de donner la parole après à Raphaël Grenier-Cassagnac, qui lui s'est interrogé effectivement sur cette question du sérieux des vampires.
Non, je ne les ai pas vraiment pris au sérieux, mais bon, un thème comme ça, je ne serais pas venu à l'idée d'écrire une histoire de vampire, quoi. C'est quelque chose qui ne m'a jamais beaucoup intéressé. Et ça a été un peu un problème. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de cette histoire de vampire? Alors, bon, j'avais ces images de Nosferatu, là où il y a le bateau des morts avec ces vampires. Et donc, j'ai transposé dans un univers de Space Opera, quoi, avec une cargaison de vampires dans un astéroïde creux, quoi, qui voyage avec un écosystème. Et on a le point de vue d'une intelligence artificielle totalement stressée. Et ces programmeurs sont des rigolos parce que quand elle est stressée, elle s'exprime en alexandrin. En alexandrin classique. Et donc, bon, l'idée, c'était voilà, de le faire façon. Jeanne m'avait dit, fais quelque chose de à contre-emploi. Alors, je traduis décalé. Et donc, écrire un space opéra en alexandrin, je me dis, ouais, ça peut être assez décalé, ça. Et l'idée, c'était aussi de partir sur un peu. Alors, donc, j'ai amené ce que j'avais. Une seconde. Je n'ai pas osé trop insister. Au départ, il y avait un frontispice qui imitait les classiques Larousse. Et donc l'idée, c'était de faire un faux classique Larousse, une histoire de vampire. Et il y a les notes de bas de page, il y a, je ne sais pas, une trentaine de notes, c'est, ça dévore le texte, quoi, qui explique des points de l'histoire de la galaxie, qui était voilà, correspondant à ce qui est raconté dans ce forme d'Alexandra. Mais pour revenir à ta question, le prendre au sérieux, je ne me serais pas vu écrire une histoire de vampire qui fait peur avec des gens transis. J'ai pas tellement vu l'autisme. J'ai vu le côté social. Hein. C'est des gens, au fond, un vampire, c'est des gens qui ont été traités contre l'immortalité. Il y a un pastiche très net voulu de Cordelier Smith. Hein, c'est d'énormes moutons obèses qui produisent la drogue d'immortalité. Simplement, bon, alors, il y a un problème, c'est que ça transforme les gens en vampires et on les a tous expatriés sur des planètes maudites, lointaines, etc. Là, c'est une nef qui, au départ, les approvisionne. Et bon, je raconte pas tout parce qu'il va être détourné à d'autres fins. Mais l'idée, voilà, c'était de faire un truc décalé en écrivant Alexandre du Space Opera.
Le seul truc qui manque, là, je viens d'y penser, dans ta nouvelle, c'est les sujets de cours.
J'ai pas osé montrer contre les vers 88 et 93, l'auteur a su opposer. Ben, j'ai pas osé. À un moment, c'était pas bon temps de faire de la guerre des Michards.
Oui, de la guerre des Michards.
Voilà,
c'est ça
qu'il fallait.
Réédite-la avec ses notes de bas de page.
Pas de soucis.
Moi, je pense qu'il faut en faire un roman. Hein.
Ah mais j'ai une complète science-fiction en cours qui fait 7000 vers, mais c'est, j'en ai parlé à André des Moutons, il m'a dit, mais tu ne placeras jamais un truc pareil. Parce
que même chez les moutons, on peut vraiment placer les moutons.
Il n'aime pas trop la poésie, hélas.
Alors Raphaël, prends le vampire au sérieux.
Timothée, tu tiens un bon filon pour tes dédicaces tout à l'heure.
En Alexandra, dédicace, ça sera dédicté comme Alexandra. Je promets avec la rime sur votre.
Alors, moi, quand Jeanne m'a proposé le projet, j'étais bien emmerdé, je pense que tout le monde. J'ai d'abord cherché des idées de science-fiction, j'ai trouvé des trucs assez tordus, mais moins tordus que ce que vous avez trouvé. Vous, et finalement, je me suis rabattu sur quelque chose d'assez simple. Je me suis dit, on va à Sèvres. Qu'est-ce que ça peut être un vampire aujourd'hui à Sèvres? Aujourd'hui, c'est pas du tout la science-fiction, en fait, finalement. Puis je me suis dit, où est-ce qu'on en voit? On en voit au cinéma, on en voit sur les tables à Sèvres. Je me souviens avoir feuilleté quelques bouquins de Bitlit les années précédentes. Et donc, finalement, voilà, mon vampire, il est sévrien, il habite ici. Vous verrez qui c'est si vous le lisez. Et au final, pour répondre sur ce que tu disais, je suis arrivé à la conclusion que le vampire aujourd'hui, c'est peut-être devenu une espèce d'immense farce. Il y a un mythe fondateur qui est très très fort, évidemment, mais c'est devenu une espèce d'immense farce. Donc, effectivement, je ne les ai pas du tout pris au sérieux.
Et cette question peut s'adresser également à Jeanne. Puisque, outre le fait qu'elle est anthologiste, c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les vampires, enfin, à partir des vampires, mais là aussi, peut-on prendre le vampire au sérieux?
Je crois que, moi je ne peux pas, en tout cas, de toute façon, je ne peux jamais prendre grand-chose au sérieux, donc pas plus les vampires qu'autre chose. Cela dit, je crois que ma réaction, enfin, la raison pour laquelle j'écris des vampires un peu à côté de la plaque, des galets aussi, c'est parce que il y avait les beaux vampires, ceux qui traversaient les ponts et donc qui étaient accueillis par leurs fantômes, les Nosferatu, les Dracula, et la dernière vague vampirisque me paraît terriblement affalissante. Donc pour moi, je crois que l'humour, qui est une chose sérieuse, trop sérieuse pour la laisser à Timothée.
Tu as bien raison. C'est quasi affalissante, là.
Voici mon Bréant.
Sinon, elle est parodique,
il vaut mieux.
Ça rentrera dans l'histoire. Donc,
l'humour, qui est une chose sérieuse, ne pouvait que remettre le vampire sur les rails, et c'est ce que j'ai fait, moi, dans ma propre création. Et cela dit, je voudrais conclure sur l'anthologie. Je vous remercie tous. Vous avez joué le jeu à fond. Vous avez été parfait. Vous avez été un enchantement. J'ai beaucoup ri. Merci.
Merci. Merci.
Enfin, tout ce que je viens d'entendre me donne envie de lire l'anthologie.
c'est qui fait partie de l'objectif. Alors, il nous reste du temps, c'était le but aussi. Là, on a fait un premier tour. Et là, si je vais maintenant demander aux auteurs, enfin, avant de donner un petit peu la parole au public, que je remercie évidemment d'être là et que j'invite à aller trouver l'anthologie le plus tôt possible en sortant. La question, justement, c'est une question double. D'après vous, est-ce que cette anthologie constitue une sorte de dommage un peu post-mortem pour le vampire, c'est-à-dire dans l'idée que finalement il y a une mode qui aurait tendance à faire disparaître le vampire comme élément de création originale. Donc est-ce que vous avez l'impression que c'est une sorte de... Pour vous, c'est le point ultime, ou est-ce qu'il vous semble que, sans forcément présenter ce que vous faites comme étant le filon en or, sauf peut-être effectivement les alexandrins de Timothée, est-ce qu'il vous semble qu'un nouvel avenir est possible pour le vampire, à partir des pistes que vous avez envisagées? Est-ce que vous semble que le vampire peut être justement renouvelé autrement que dans des formules qui en font essentiellement des femmes court vêtues, chasseuses de vampires? Qu'en pensez-vous?
La mienne n'est pas court vêtue.
Voilà, tout à fait.
Oui, parler de cuir. Et en plus, c'est de la science-fiction quand même, j'ai oublié de le dire. C'est de la SF.
Alors, qu'en pensez-vous?
Moi, je pense une chose. Je crois que c'est pas le vampire qui peut revenir, parce que c'est vrai que c'est un thème maintenant écoulé où tout a été dit. Par contre, la vampirisation est véritablement le thème que la plupart d'entre vous ont traité. La vie vampirisation sur un plan économique, sociologique, etc. Ou même religieuse. Et donc là, je crois qu'il y a une possibilité de renouveau du thème.
J'allais dire à peu près la même chose que Marianne. Oui, c'est-à-dire que justement, finalement, auteurs de science-fiction qui nous intéressons finalement davantage au présent qu'au futur comme prédiction, pas de prédiction, on s'intéresse au présent, on a été plus ou moins frappés par la vampirisation, alors l'argent qui existe. Donc on a transformé le vampire thème ancestral en quelque chose de contemporain, parce qu'on assiste à ces vampires sociaux, vampires humains, psychologiques, qui existent. Donc, finalement, le vampire n'est pas un mythe, il existe, il est près de nous.
C'est vrai. C'est parce qu'on depuis toujours, c'est ça. C'est pour ça que c'est devenu un mythe. À l'origine, moi je renverserai. Je dis ce que j'avais à dire, voilà, mais à mon avis, c'est... quelque chose qui nous parle, parce que depuis la préhistoire, on côtoie des gens qui sont comme ça. Et que bon, ça nous fait peur, et on a projeté ça dans le fantastique depuis peu. Bon, ça fait très longtemps que c'est l'énergie vitale absorbée, on connaît des gens comme ça. Hein. Tu es à côté de cette personne, à la fin de la journée, il est en forme, toi, cette personne parle beaucoup, qui s'inspire.
Ça s'appelle des élèves, ça. C'est
pour ça que j'en ai beaucoup en face de moi, souvent.
C'est en forme que tu es fatigué. Juste pour ajouter quand même, alors je suis d'accord avec.
Les élèves, c'est pas les élèves standards, les élèves.
Ouais, non, les vrais élèves. Ouais.
Justement, ils ne vampirisent pas, ils meurent.
Merci, Georges.
Non, mais quand même, moi je pense que le vampire est pas. Bah, il peut pas mourir déjà, mais il est pas mort ou il est déjà mort. Mais il peut revenir, parce qu'en fait, dans la science-fiction, il y a aussi des grandes figures, des grandes thématiques comme ça, un peu historiques. Et que même si aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une banalisation, un affadissement, comme tu as très bien dit, de ces grandes figures, de ces grands repères, de l'imaginaire au sens large, je pense qu'en fait, quelque part, tôt ou tard, il faut en revenir aussi aux racines, hein, il faut revenir au point de départ mythique ou mythologique. Et donc je ne serais pas du tout étonné que la science-fiction revienne aussi, soit capable de reparler du vampire de façon que le vampire vraiment en tant que tel, le vampire... au sens orthodoxe du terme, au sens le plus classique. Et je pense qu'il y a encore des choses à dire. Et puis il y a des grands textes, hein, qui ont été écrits qui croisent la science-fiction et le fantastique. Il y a bon, Simmons, il y a Jack Williamson, il y a Van Vogt qui a fait aussi des vampires psychiques, etc. Donc je crois, Chamblot, bien sûr.
Et n'oublie pas celui qui vient de disparaître,
bien sûr.
Colin Wilson.
Oui, aussi.
Oui, Matheson.
Et Matheson, Matheson, tu l'avais cité.
La table ronde par Georges.
Voilà. Tu l'avais cité, Matheson. Donc je pense que la science-fiction peut revenir aussi. Hein. Moi, c'est un joli défi de revenir à des figures, des points de départ, des repères imaginaires, et de réécrire des textes classiques dessus.
Et de montrer qu'on peut partir. Alors, y a-t-il. Est-ce que. Oui, Christian Léourier.
Oui, moi, je voudrais juste insister sur un thème que j'ai évacué, en fait. Mais qui me paraît important, qui est l'immortalité du vampire. Le vampire, c'est la transgression suprême, parce que justement, il, même si c'est en parasitant les vivants, il a réussi à aller au-delà de la mort et à être le non-mort. Et ça, je pense que c'est un thème qui va exploser dans la science-fiction, parce qu'on est au seuil d'un prolongement de la vie dont il ne veut pas tirer les conséquences.
Oui, effectivement, on peut l'interpréter ainsi, mais il a une particularité, c'est qu'il est non mort et sexy, potentiellement. Contrairement aux zombies, il n'a rien de sexy du tout, mais qui lui aussi réussit pas mal. Et effectivement, le zombie à grand emploi, ça pourrait être le thème de la 25e édition de
Non, c'est un thème, journal d'un zombie.
Journal d'un zombie, est-ce que ça n'a pas déjà été. Ou alors on tombe dans des choses comme Warm Body.
Mais le zombie ne sait même pas, ne pense pas, il ne sait pas écrire.
Non mais le zombie est un thème de fantaisie, il n'y a pas de propos dans le zombie.
Voilà. Sauf si on est
sauf si on
fait bien des choses. Alors, y a-t-il une question pour clore, pour que, au moins symboliquement, je me suis tourné vers le public. On était nombreux à vouloir parler, mais y a-t-il des gens qui souhaiteraient.
J'ai un micro.
Sinon, une question.
Moi, j'ai une question pour le modérateur. Et oui, parce que quand on est modérateur, on n'a pas toujours l'occasion de dire tout ce qu'on a à dire. Alors, le modérateur, autant que vous le sachiez, c'est quand même sa première nouvelle publiée.
C'est la deuxième.
Ah,
c'est la première nouvelle de science-fiction publiée.
Première nouvelle.
Parce qu'avant, j'ai publié une nouvelle de fantasy, une nouvelle de. Enfin, deux nouvelles de fantasy. Nouvelle de super-héros, mais ce n'est pas la science-fiction, c'est de la fantasy en fait.
Alors,
bref, c'est par chemin et traverse, et notamment, effectivement, publié par. Mais c'est effectivement la première nouvelle de science-fiction que j'ai faite, sachant que j'étais tenté au départ de faire. De la parodie et de la fantasy. Bon, et là, j'ai essayé de faire de la science-fiction.
Alors, considérons que tu as complètement échoué dans la parodie, je crois que c'est clair. Oui. Qu'est-ce que tu vas en faire de cette expérience? Parce que vu l'ampleur métaphysique de ton univers, on pourrait imaginer un roman derrière.
Non, un roman.
Peux-tu annoncer ici et maintenant, et au nom de l'éternité et de l'immortalité?
Un roman, certainement pas, mais je pars du principe, et c'est ce que j'ai retrouvé également dans les autres textes de l'anthologie, que les nouvelles, pour moi, quand elles sont réussies, c'est quelque chose qui donne envie d'en découvrir plus sur l'univers, tout en frustrant sur le fait que, bah non, on n'en saura pas plus. Et donc, la nouvelle, c'est vraiment quelque chose qui est un carrefour, un moment de rencontre de très nombreuses choses. Et effectivement, on peut avoir envie de les prolonger, mais justement, moi, je pars du principe qu'il vaut mieux ne pas prolonger une nouvelle parce que, voilà, une grande partie de ce qui fonctionne sur du trompe-l'œil. Alors que le roman, surtout vraiment bien composé, il y a du solide derrière. Mais, voilà. Donc, mais éventuellement, effectivement, je n'exclus pas, effectivement, à l'occasion de produire d'autres textes. Et d'ailleurs, enfin, j'ai proposé un texte à l'Anthologie 42, voilà, que je signale en passant. Et je crois que l'appel à texte est encore ouvert.
Oui, jusqu'au 31 décembre.
Voilà, jusqu'au 31 décembre. Donc l'Anthologie 42, autre anthologie, mais pour le coup, beaucoup plus.
Elle est à la fois dirigée par moi et par un collège qui est derrière moi.
Disons beaucoup moins contrainte, puisque 42, ça veut dire en gros, faites de la science-fiction.
Voilà, celle que vous aimez. Avec des lézards à gros seins.
Bien. Donc, la rencontre du vampire et du lézard à gros seins se sera produite, malgré tout. Et donc, je crois qu'on va terminer là-dessus. C'est une bonne manière de terminer. Donc, merci encore au Festival de Sèvres là-dessus. Merci à Jean-Luc Rivera pour cette initiative et pour tout le travail qu'il fait et auquel cette anthologie tente modestement de rendre hommage. C'est aussi un témoignage de la part des auteurs de l'affection et du respect qu'on a pour Jean-Luc Rivera. Thank you.